Merci. Si vous voulez bien ouvrir votre Bible dans le premier livre de Samuel, au chapitre 6. Et nous allons lire à partir du verset 19. Mais avant que je lise, j'aimerais dire un petit peu les épisodes précédents. Nous avions vu le jugement de Dieu sur la famille du sacrificateur Élie et ses fils. Ça s'appelait comment, ses fils ? Off, quelque chose, oui. Ophni et Finé. Voilà, c'est pas des prénoms faciles. Hein. Si j'ai un enfant, je ne l'appellerai pas comme ça. Mais c'était les deux fils d'Élie. Et comme ils méprisaient le temple où ils officiaient, ils ont été condamnés à mort par la prophétie de Dieu. Et ils sont morts, effectivement, lors d'une guerre avec quel peuple qui attaquait Israël ? Les ennemis héréditaires ? Philistins. Et tout au long du livre des juges, et là nous sommes dans la même période, hein, les ennemis autour d'Israël, chaque fois qu'Israël désobéissait, c'était un peuple qui sortait pour les attaquer. Souvent c'était les Philistins, mais il n'y avait pas que les Philistins, mais on les retrouve souvent, parce que c'était les plus proches, et ceux qui sont aujourd'hui dans la bande de Gaza, hein, un peu cette ligne-là, les Philistins, si vous regardez une carte dans votre Bible. Et il y a cette inimitié encore aujourd'hui, hein, c'est quand même quelque chose de voir... Le combat qui depuis des millénaires. Et Dieu a jugé Élie et ses fils. Ils ont non seulement ça, mais l'arche de l'alliance a été prise, puisqu'ils sont allés faire la guerre avec l'arche de l'alliance, pensant que ça allait leur donner la victoire. Et au lieu de se repentir, au lieu de chercher la face de Dieu, ils ont continué dans leur désobéissance, dans leur folie. Et l'arche a été donc pendant des années aux mains des ennemis. Pendant ces années-là, Dieu à juger aussi, mais en montrant sa gloire et qu'il est le Dieu unique, puisque dans le temple de Dagon, je vous avais dit, hein, la statue de Dagon a été abattue par, miraculeusement, sans aucune main, par l'arche en fait, la présence de Dieu. Et les Philistins, au bout d'un moment, ont dit, on n'en peut plus, nous on veut se débarrasser. Et les Philistins se sont rendus compte de la sainteté de Dieu, alors qu'Israël n'en était même pas là. Et quelquefois, les personnes qui ne connaissent pas Dieu ou qui ne sont pas chrétiens de nom ont une sensibilité par rapport à Dieu plus grande que les chrétiens qui, eux, se laissent aller à la facilité. Et moi, je suis chrétien. Certains disent « j'ai été baptisé bébé, donc maintenant, je peux vivre comme je veux ». Eh bien non, Dieu juge, Dieu est saint, avec son peuple en premier d'ailleurs. Dieu est parfois plus sévère avec son propre peuple qu'avec les autres. C'est ce qui se passe d'ailleurs avec les Philistins. Dieu va toucher les Philistins, mais il ne va pas les tuer, par exemple. Mais avec Israël, il est sévère parce que Israël représentait Dieu sur la terre. C'était le peuple témoin. Et si le peuple témoin ne témoigne plus, s'il n'est plus le sel, s'il ne donne plus de saveur, c'est catastrophique. Hein, le témoignage de Dieu est perdu et les gens ne peuvent pas venir au Seigneur. Mais là, il va se passer encore quelque chose. Voilà, avec tout ce que les Philistins vont faire pour rendre l'arche. Et je vais lire au verset 18 parce que c'est ce qu'atteste la grande pierre sur laquelle on déposa l'arche de l'Éternel, 1 Samuel 6, 18, et qui est encore aujourd'hui dans le champ de Josué de Beth-Shemesh. L'Éternel frappa les gens de Beth-Shemesh lorsqu'ils regardèrent l'arche de l'Éternel. Il frappa, alors là on a un problème de manuscrit, donc on ne sait pas le chiffre, beaucoup pensent que c'est 70 hommes, ce qui est déjà beaucoup pour un petit village, parmi le peuple. Et le peuple fut dans la désolation parce que l'Éternel l'avait frappé d'une grande plaie. Les gens de Beth-Shemesh dirent, qui peut subsister en présence de l'Éternel, de ce Dieu saint ? Et vers qui l'arche doit-elle monter en s'éloignant de nous ? Ils envoyèrent des messagers aux habitants de Kirjath-Jéarim pour leur dire, « Les Philistins ont ramené l'arche de l'Éternel. descendez et faites-la monter vers nous. Vers vous, pardon. Excusez-moi. Ici, c'est une plaie qui vient de Dieu. Dans l'Ancien Testament, il y a un certain nombre de plaies et de jugements. Et quand on lit l'Ancien Testament, on se dit, Dieu était très dur dans l'Ancien et dans le Nouveau, il est heureusement beaucoup plus miséricordieux. Mais la Bible nous dit que Dieu est le même. Il est toujours le même. Dieu ne change pas. Il a une façon d'agir peut-être différente dans certaines dispensations, comme on dit, certaines périodes, des exigences qui peuvent varier. Mais le salut, c'est toujours par la grâce, par la foi. Et Dieu est toujours le même. Il est toujours aussi saint aujourd'hui et aussi strict avec le péché. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de plaie apparente à nos yeux, mais en fait, il y a certainement des plaies qui touchent les êtres humains. Il y a des épidémies, il y a des guerres, il y a des choses terribles qui sont aussi des jugements de Dieu. Quelque part, cette arrivée d'immigrants dont on parle beaucoup est une forme de jugement sur l'Europe aussi. La montée de l'islam radical, avec des terroristes en Europe et un peu partout, mais il y a beaucoup de terroristes qui viennent d'Europe et qui vont combattre en Syrie. C'est un jugement, c'est parce qu'on a mis de côté Jésus-Christ et la Bible, alors il y a un vide spirituel, et dans le vide, ça se remplit. Et les jeunes, des jeunes qui cherchent un sens à leur vie, ben, ils regardent une vidéo, « Va te battre pour tes frères musulmans et pour le califat qui est la sainteté d'Allah sur terre. » Ils y croient et ils vont là-bas pour, malheureusement, mourir et se faire maltraiter la plupart du temps. Mais à cette époque-là, il y avait des plaies, notamment en Israël. Et pourquoi y a-t-il une plaie là? Qu'est-ce que Dieu reproche aux habitants de Beth-Shemesh? Ils ont regardé l'arche. Vous me dites, ce n'est pas un grand péché quand même. Mais l'arche, c'était la présence de Dieu, la gloire de Dieu. L'arche devait être normalement dans quelle pièce du temple, comme on l'appelait? Le Saint des Saints ou le lieu très saint. Ça devait être caché derrière un épais rideau pour que personne ne puisse y accéder involontairement. C'était une fois par an que le souverain sacrificateur rentrait faire l'expiation pour Yom Kippour, pour tout le peuple et pour toute l'année. Et là, l'arche était à découvert. Or, il était écrit dans la loi qu'on ne devait pas trimballer l'arche de Dieu à découvert, parce qu'elle était la présence de Dieu. Et donc, il y a ce verset en Nombre 4, 15, qui explique, c'est dans la loi de Moïse, comment on devait transporter les ustensiles du temple. Je vais vous le lire, on n'avait pas forcément à chercher. Après qu'Aaron et ses fils auront achevé de couvrir le sanctuaire et tous les ustensiles du sanctuaire, les fils de Kehath viendront au départ du camp pour les porter. Mais ils ne toucheront point les choses saintes, de peur qu'ils ne meurent. Telles sont les fonctions des porteurs imposées aux fils de Kehath dans la tente d'assignation. Il dit donc qu'ils auront achevé de couvrir. Il fallait couvrir tous les éléments du sanctuaire, le chandelier et particulièrement l'arche de l'Alliance. Ici, ils ne l'ont pas fait. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Parce qu'ils avaient totalement oublié la loi de Dieu. Ils l'avaient mise derrière leur dos, ils ne lisaient plus la loi, ils ne s'occupaient plus de Dieu. C'était une période d'apostasie, d'éloignement de Dieu. Mais Dieu reste saint. Et donc, il regarde l'arche, il envoie une plaie. On pourrait se dire, mais c'est terrible de tuer des hommes comme ça parce qu'ils ont juste regardé un coffre. Mais en fait, ce jugement et cette plaie va amener un réveil parmi Israël. J'avais déjà cité l'exemple de ce fait divers dans le livre des Juges, lorsque une femme avait été violée par tout un village et que son compagnon ou son mari, devant l'horreur de ce viol collectif, avait découpé le cadavre de sa femme en plusieurs morceaux. Il avait envoyé un morceau à chaque tribu. Vous imaginez la chose. Aujourd'hui, il se passe des choses comme ça, presque quotidiennement. Des corps dans les valises, des morceaux de cadavres. On n'est pas meilleur aujourd'hui. Mais pourquoi il a fait ça? Quand il a envoyé ces morceaux de cadavres, chaque représentant de la tribu a dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça? D'où ça vient ?» Il y avait certainement une explication. Cette femme a été violée par tout un village en Israël. Est-ce que c'est acceptable? Non. Et ce fait divers a amené une prise de conscience de tout Israël. Et là, cette plaie, ça va amener une prise de conscience. Quand on n'écoute pas Dieu, Dieu est obligé de frapper plus en plus fort pour qu'on l'écoute. Il y a des fois où Dieu nous livre à nos conséquences, à nos péchés. On dit, non, je ne t'écoute pas, je veux faire ce qui me plaît. Dieu dit, écoute, ce n'est pas bon, tu vas à ta ruine, tu vas mourir, tu vas être perdu. Non, laisse-moi tranquille, je ne veux rien savoir de tout ça, de ce qui tu es, de ta loi, de ta Bible, de Jésus-Christ, ça ne m'intéresse pas. Si la personne persiste, Dieu peut la livrer à ses passions. Et cette personne va tomber dans des choses parce qu'elle aura voulu les avoir. Un petit peu comme Israël dans le désert lorsqu'il voulait de la viande. Ils ont dit à Dieu, on en a assez de ta manne là qui tombe, on veut de la viande, de la viande, de la viande. Et Dieu a dit, mais ce n'est pas bon pour vous de la viande. Si, nous voulons des cailles, hein, l'oiseau, c'est vrai que c'est délicieux, des petites cailles au raisin. Hein. Et eux, ils rêvaient de cailles au raisin dans le désert alors qu'ils avaient de la manne tous les matins qui tombait de Dieu. Mais c'était un miracle tous les matins. Dans le désert, il n'y a rien. Hein, Et eux, ils avaient ce pain magnifique, enrichi au goût de miel. Ils ont dit, non, nous voulons de la viande. Et Dieu a dit, d'accord, vous voulez de la viande, je vais vous donner de la viande. Et il y a des cailles qui sont venues, qui sont tombées quasiment devant eux. Voilà, ils ont pu manger des cailles, mais il y en a eu des dizaines, des centaines. Et au bout d'un moment, ils n'en pouvaient plus avec les cailles. Et c'était une façon à Dieu de dire à son peuple, je vous donne ce que vous voulez, mais vous voyez, ce n'est pas ça que vous voulez, ce n'est pas ça qu'il vous faut. Hein? Et là, eh bien, ce jugement, ça va les amener à réaliser que Dieu est saint, que l'arche, c'est la présence de Dieu. On ne joue pas avec Dieu si on est son peuple, si on fait partie de son peuple. Je ne parle pas de quelqu'un qui aussi est incroyant par ignorance. Il y a des gens, ils n'ont jamais entendu vraiment l'évangile. Ils ont eu des mauvais témoignages de la part de croyants. Et ces personnes-là, ils ont encore besoin d'une chance, hein, de plusieurs chances. Il faut différencier la personne qui s'est endurcie contre l'évangile, contre Dieu, sciemment, et la personne ignorante qui a besoin d'entendre la bonne nouvelle et de savoir que ça existe, que Dieu est vivant, que Dieu l'aime. Voilà. Mais Dieu ne peut pas laisser le péché impuni. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On va amener l'Arche de l'Alliance hein, dans l'autre village. Et pendant des années, eh bien, ça va rester là, à l'abandon. Donc, je lis au chapitre 7. Les gens de Kirjath-Jéarim vinrent, firent monter l'Arche de l'Éternel. Ils la conduisirent dans la maison d'Abinadab. Donc, ils l'amènent dans la maison d'un particulier, sur la colline. Ils consacrèrent son fils Éléazar pour garder l'Arche de l'Éternel. Donc, ils prennent le fils du propriétaire de la maison. C'est toi qui vas protéger l'arche, tu la gardes, personne n'entre, personne n'y touche. Et donc c'était son travail. Il s'est passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kirjath-Jéarim. 20 années s'étaient écoulées. Vous vous rendez compte, 20 ans sans qu'Israël ne cherche Dieu. Alors toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Au bout de 20 ans, il y a un déclic. Il pousse des gémissements. Samuel dit à toute la maison d'Israël, « Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers, les Astartés, dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. » Et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals et les Astartés, et ils servirent l'Éternel seul. Pendant ces 20 ans, Israël a continué à s'enfoncer. Pourquoi ils n'ont pas touché à l'arche? C'est aussi peut-être probablement parce qu'ils ont eu peur. Ils se sont dit, la dernière fois qu'on a pris l'arche, il y a eu 70 morts. Donc on va peut-être la laisser cachée. Moins on y touche, mieux c'est. Mais dans ces 20 ans, il y a eu ce vide spirituel, ce besoin de Dieu. Je pense que leur situation morale, spirituelle, économique, militaire, tout s'est dégradé. Et ils sont arrivés au bout d'eux-mêmes et ils ont commencé à pousser des gémissements. Et parfois, ça arrive à des individus. Quelqu'un qui a connu le Seigneur, enfant par exemple, qui a été à l'école du dimanche, voilà, et puis, vers 16-17 ans, s'est éloigné, laisse tomber, et il vit sa vie. Alors tout va bien, il fait ses études, il travaille, il se marie, et puis les choses commencent à se désagréger. il sait pas, il comprend pas pourquoi, mais son mariage marche pas très bien, son cœur, il est aigri, et tout se désagrège, et il comprend pas jusqu'au moment où il arrive au bout en disant, mais j'ai laissé tomber le Seigneur. Je suis passé à côté de la vraie vie. Le Seigneur m'avait appelé, m'avait touché, et moi, j'ai vécu comme s'il n'existait pas pendant toutes ces années. Ça peut être 20 ans des fois. Et c'est beau quand même. Moi, je trouve ça merveilleux quand un chrétien qui a connu le Seigneur enfant et qui revient à Dieu, même 20 ans après, je dis gloire à Dieu, je dis c'est merveilleux parce que c'est jamais trop tard. Ce qu'il aurait fallu, évidemment, c'est qu'il n'abandonne pas le Seigneur. Hein. C'est qu'il marche avec Dieu toutes ces années. Il aurait choisi la bonne épouse ou le bon mari. Parce que quand on n'est pas dans le Seigneur, on a tendance à faire les mauvais choix. Il aurait mis les bonnes priorités dans sa vie et il n'aurait pas eu plein de problèmes qui viennent quand on ne marche pas avec Dieu. Mais là, Israël se tourne vers Dieu. Et qui est là pour répondre? C'est Samuel. Samuel, c'est le juge, le prophète, l'homme de Dieu. Il est là pour leur dire quoi faire. C'est assez simple ce qu'il leur dit, vous avez vu. Revenez à l'Éternel de tout votre cœur. Qu'est-ce que ça veut dire, revenez à l'Éternel, revenir? Bien, arrêtez de fuir Dieu. Parce que souvent, on fuit Dieu. Qui est le premier homme qui a fui Dieu, qui s'est caché? Adam, même avant. Quand Adam et Ève ont péché, ils se sont cachés, dit la Bible dans la Genèse. Pourtant, Dieu n'avait fait que du bien, mais eux, ils avaient la conscience coupable et se sont dit, oh, on a fait une faute, il faut que Dieu, personne ne le sache, on va se cacher. Mais on ne peut pas se cacher de Dieu. On peut se cacher des hommes à la rigueur, mais de Dieu, on ne peut pas. Et quand on a péché, il faut aller à Dieu, parce qu'il est justement miséricordieux. Dieu aime qu'on vienne lui dire, Seigneur, pardon. Dieu aime ça. Dieu n'est pas un père fouettard qui, quand on revient à lui, vous frappe en disant, je t'avais dit, tu vois, bing. Non, ça c'est les mauvais parents qui font ça. Dieu est un père aimant. Si on revient à lui, il est comme le père de la parabole du fils prodigue. Qu'est-ce qu'il fait le père de la parabole du fils prodigue? Hein? Il ouvre les bras, il accueille son fils. Il va même au devant, dit la Bible. Hein? Il voit son fils de loin, il court vers lui et il le prend dans ses bras. Il dit, mon fils qui était perdu est revenu. Ça, c'est l'attitude de Dieu quand on revient à lui. C'est pour ça qu'il faut revenir à Dieu si on s'est éloigné. Il faut arrêter de chercher des solutions de rechange. Nous, on est très forts pour ça, les humains. On cherche tout pour échapper à la vraie chose, hein, pour faire face, en fait. On a horreur de faire face à notre péché, à notre culpabilité, à nos responsabilités. Donc, on va trouver un raccourci et Satan va nous en suggérer plusieurs à chaque fois. Et il faut arrêter de fuir, de trouver des excuses, de se justifier. Il faut dire, voilà où j'en suis et Seigneur, je reviens à toi. On revient d'abord à Dieu. Et après, Dieu, il met les choses en règle pour le reste. Des fois, on dit, bon, je vais régler les choses dans mon couple et je reviendrai à Dieu. Non, c'est Dieu qui va régler les choses dans ton couple. Oui, mais je vais me mettre en règle avec l'État ou avec la société. Non, reviens à Dieu et Dieu va te dire comment faire pour te mettre en règle. J'avais été frappé par, et je l'avais déjà raconté, l'histoire de cet agent immobilier à Perpignan qui trichait sur ses revenus et sur les ventes qu'il faisait. Donc, il s'est mis plein d'argent. Avec sa femme, ils allaient dans tous les pays exotiques aux frais. Grâce à cet argent, gagnaient malhonnêtement parce qu'ils ne déclaraient pas tout ce qu'ils vendaient, etc. Et cet homme avait entendu l'évangile petit et il est revenu à Dieu sur le tard, comme on dit. Et il est allé donc à l'église de Perpignan où le pasteur Sauvage exerce, David Sauvage. C'est lui qui me l'a raconté. Et il l'a vraiment tout remis à Dieu. Il dit, Seigneur, je veux te suivre, tu es mon Dieu, mon Sauveur, mon Seigneur. Et il a une conviction qui venait de Dieu, qu'il fallait qu'il déclare cet argent non déclaré. Donc il est allé voir son inspecteur, enfin des impôts là. Il a dit, monsieur, voilà, je suis commerçant, je suis agent immobilier, et pendant des années, je n'ai pas tout déclaré. maintenant je suis devenu chrétien et je veux vous dire que voilà, j'ai volé cet argent à l'État. » Donc le gars, déjà, bon. Et ils ont fait les comptes et il y avait beaucoup d'argent. Et ils ont dit, ils ont fait appel donc à la justice. Hein, le Trésor public a attaqué en justice cet homme. Il a été condamné. Donc à une amende, et je crois qu'il a eu la prison tellement c'était élevé. Et cet homme, parce qu'il suivait Dieu, il était prêt à faire tout ça pour que ce soit réglé. Il ne voulait pas avoir ça sur la conscience. C'est réglé. Moi, je trouve ça assez impressionnant. Mais il est d'abord revenu à Dieu. Personne ne lui a dit, tu sais, tu dois te déclarer ou faire la prison. Même le pasteur ne lui a jamais demandé une chose pareille. Même le pasteur a dit, t'es sûr que tu veux faire ça? C'était une conviction du Saint-Esprit. Je dois régler les choses. Revenir à Dieu, tel qu'on est, pour lui demander grâce. Il dit, si c'est de tout votre cœur, et c'est important, le tout votre cœur, bien sûr, il faut être déterminé et entier. On ne revient pas à Dieu à moitié en disant, je garde un peu de péché, je reviens un peu à Dieu pour qu'il... Non. Si je reviens à Dieu, je laisse le péché et les idoles et je vais vraiment à Dieu. Et c'est ce qu'il dit, hein. Ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés. Donc ils avaient beaucoup, ils avaient pris les Israélites, les dieux des peuples autour. Les dieux principaux, c'était les Baals et les astartés. Astarté, c'est la déesse qui a évolué au fur et à mesure des millénaires et presque très certainement, je ne peux pas le prouver à 100%, mais cette déesse s'est transformée en Vierge Marie. C'est-à-dire la Vierge Marie a des caractéristiques clairement proches des Astartés. L'Astarté s'appelait la Reine du Ciel chez les païens. C'est un titre qu'on retrouve aujourd'hui hein, dans la tradition sur la Vierge Marie. Ce n'est pas dans la Bible. Hein. Dans la Bible, elle n'est jamais appelée la Reine du Ciel, c'est la maman de Jésus, hein, Marie. Mais la Reine du Ciel, c'était un titre qu'on donnait aux Astartés. Il dit de tout votre cœur, ne soyez pas hypocrite, ne soyez pas à moitié, ne faites pas semblant. Il faut être absolument sincère parce que Dieu voit le cœur. Ôtez les idoles, il faut être concret quand on revient à Dieu. Parce que des fois, on revient à Dieu en disant « Ah, je reviens à toi, d'accord. » En fait, on revient parce qu'on a souffert. Mais on n'est pas sincère. On a souffert, on ne veut plus souffrir. Donc, on veut que Dieu soit apaisé. Donc, on dit « Je reviens à toi, Seigneur. » Et puis, Dieu dit « D'accord, super, merveilleux, je t'accepte. Maintenant, enlève les idoles qui t'ont fait chuter, qui sont la cause de tes problèmes. » Oula, non, non, non. Attends, attends. Je reviens, mais je veux garder mon petit lot d'idoles, là. Ah non, ça ne marche pas comme ça. Si je reviens à Dieu, c'est Dieu seul. Servez-le, lui, seul. Et oui, mais moi, je compte beaucoup sur les saints. Est-ce que la Bible, est-ce que la loi de Dieu, est-ce que Jésus a demandé de s'appuyer sur les saints? Vous pouvez chercher dans toute la Bible. De la Genèse à l'Apocalypse, Jésus n'a jamais demandé. Il a dit « Priez pour tous les saints » et il voulait dire « tous les chrétiens ». Là, c'est clair dans le contexte, hein, c'est dans l'Épître aux Philippiens et c'est « pour ». Mais il ne dit jamais « comptez sur Pierre, sur Paul, sur la Vierge, sur... » Jamais. C'est toujours Jésus seul. Il est le seul chemin, il est le seul médiateur, il est le seul Dieu, le seul sauveur. Il n'y a qu'un seul Dieu, Jésus-Christ. Il n'y en a pas d'autre. Et là, c'était un choc pour ces Israélites qui avaient Yahvé, mais ils avaient Astarté, Baal, Dagon pour certains. Ils avaient toute une collection là. Et c'était des petites statues qu'on mettait dans les maisons, qu'on appelle les pénates. Hein, quand on dit je vais rentrer vers mes pénates ou dans mes pénates, ça vient de là. C'est les dieux de la maison qu'on avait chez soi. On avait soit une petite niche, soit carrément dans le salon, ils avaient leur petit dieu et ils donnaient des offrandes à chaque statue. en espérant que plus on en avait, plus on avait des chances d'être protégé. Mais Dieu, Yahvé, n'est pas un Dieu parmi les idoles. Il est le Dieu vivant. Il n'a pas besoin de statue. Il n'est pas dans une statue. Il est le Dieu esprit, le Dieu personnel qui a créé le monde. Les idoles sont des faux dieux. Et là, il fallait qu'ils agissent. Revenir à Dieu, ça voulait dire nettoyer vos maisons et vos cœurs. Aujourd'hui, il y a une autre façon d'avoir des idoles aussi. On peut avoir l'argent comme idole. Hein. Même si on n'adore pas les billets, on peut poursuivre hein, la richesse absolue ou le pouvoir. D'autres, ça peut être le sexe déviant ou toutes sortes de choses. Ces idoles doivent être enlevées et il faut revenir à Dieu de tout son cœur. Il dit, « Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul. Il vous délivrera de la main des Philistins. » Et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals et les Astartés. Ça devait être quelque chose de voir dans tous les villages d'Israël les statues qui étaient enlevées, détruites, en bois, en pierre, tout était brûlé, détruit. Ça a dû être un grand ménage, hein, parce que chacun en avait dans sa maison, ça c'est certain. Et pour dire, nous n'avons plus aucune statue à la maison, plus aucune image, maintenant c'est le Seigneur. Pourquoi ? Parce que dans les 10 commandements, Dieu a dit, vous ne ferez aucune statue ni image, vous ne vous prosternerez pas devant elle. C'est un des premiers commandements, il faut commencer par le début. Et le réveil peut commencer dans leur vie. Samuel dit, verset 5, « Assemblez tout Israël à Mitzpah, et je prierai l'Éternel pour vous. » Et ils s'assemblèrent à Mitzpah. Ils puisèrent de l'eau et la répandirent devant l'Éternel. Et ils jeûnèrent ce jour-là en disant, « Nous avons péché contre l'Éternel. » Samuel jugea les enfants d'Israël à Mitzpah. Et quand il est dit « il jugea », ça ne veut pas dire « il condamna », là, hein. C'est qu'il est un juge, donc il s'occupe d'eux en fait. Hein. Il est une sorte de berger et il prie pour eux et il les conduit, il leur explique la loi, il leur explique ce qu'ils doivent faire. C'est ça le sens ici du mot « jugea ». Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mitzpah et les princes des Philistins montèrent contre Israël. Ils se sont dit « ça y est, ils sont tous réunis en un lieu, on va les écraser une fois de plus ». À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins. Ils dirent à Samuel, « Ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. » Samuel prit un agneau de lait, l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël, et l'Éternel l'exauça. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins. Il les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Voilà le résultat lorsqu'on revient à Dieu. Il y a plusieurs choses que j'aimerais souligner. Ils puisèrent de l'eau et la répandirent devant l'Éternel. C'est un acte qui n'est pas demandé dans la loi de Moïse. C'est quelque chose qu'ils ont fait spontanément. Alors c'est difficile de savoir pourquoi, parce qu'on ne trouve pas d'autres cas similaires ou d'explications. Le seul parallèle qu'on peut trouver se trouve dans les Lamentations. Et c'est touchant parce que ça nous donne une possible réponse. Pourquoi ils ont répandu de l'eau ? Lamentation de Jérémie, chapitre 2, verset 19. Lève-toi, pousse des gémissements à l'entrée des veilles de la nuit. Répands ton cœur comme de l'eau en présence du Seigneur. C'est peut-être cette image de répandre son cœur devant Dieu, de répandre de l'eau. C'est-à-dire, Seigneur, répandre son cœur, ça veut dire quoi ? C'est une expression biblique, hein ? Oui, allez-y. Ouvrir son cœur. Qu'est-ce que ça symbolise ? Répandre son cœur devant Dieu. Dire tout ce qu'il y a dedans. Prier, c'est dans la prière souvent, hein, mais voilà. Oui, dire tout ce qu'il y a, ne rien cacher à Dieu. Tout est là, Seigneur, devant toi, j'étale tout. Mes péchés, mes doutes, mes questions, et ma foi, et mon amour et pour toi. Tout est là, on répand son cœur. Ça, c'est le réveil spirituel où on est vrai, on devient vrai. Parce qu'on peut quitter la vérité et devenir faux, devenir hypocrite. Alors, comment faire pour redevenir vrai ? Parce que des fois, on se dit, mais moi, c'est fini, j'ai perdu la sincérité. Maintenant, quand je prie, je ne sais même plus si je suis sincère ou hypocrite. On peut redevenir vrai de vrai en répandant son cœur. Seigneur, tu vois, je ne sais plus où j'en suis. Seigneur, tu vois, j'ai des doutes. Seigneur, j'ai péché contre toi, je te demande pardon. Seigneur, viens à mon secours parce que je n'ai pas la solution. Et Dieu exauce. Et là, toutes les défaites qu'on a eues dans la vie, tous les problèmes, les catastrophes, les mauvais choix, les mauvaises priorités, les conséquences de nos péchés, tout cela est vaincu. Les Philistins s'assemblent et ils sont battus. C'est vrai que là, Samuel joue le rôle un peu de Jésus-Christ, du Messie. Il est un symbole du Messie qui intercède pour son peuple et qui, justement, va obtenir la victoire pour eux. Nous, nous n'avons pas besoin de Samuel, nous avons le Seigneur Jésus-Christ. Il est dit qu'il intercède continuellement pour nous. Ça veut dire que quand je pèche contre Dieu en tant que chrétien, je peux venir au Seigneur et dire, Seigneur, veuille me pardonner. Et Christ intercède. Son sang plaide pour nous continuellement. Il est notre avocat auprès du Père. On a toujours un avocat qui vient nous défendre. Alors si nous avons péché, ne restons pas dans le péché. Ne nous endurcissons pas parce que là, on va s'enfoncer dans des affres terribles. Ce n'est pas parce qu'on est sauvé qu'on va échapper aux conséquences du péché. On va échapper à l'enfer et au jugement dernier, ça c'est clair. C'est clair dans la parole de Dieu. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Rien ne peut nous séparer de son amour. Et néanmoins, on peut par contre subir des conséquences terrestres de nos péchés en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. Alors il vaut mieux éviter ça et vivre une vie de victoire. Le temps est trop court pour avoir des défaites comme ça. Le grand tonnerre, là, en hébreu, c'est littéralement sa grande voix. Dieu répond par sa grande voix. Et c'est vrai que souvent, dans les psaumes, le tonnerre, c'est la voix de l'Éternel. Dieu parle. C'est mon peuple. Il est revenu à moi. Je le défends. Et les Philistins ont été battus. Une chose que j'aimerais aussi souligner, ce n'est pas parce qu'ils étaient revenus à Dieu que les Philistins sont restés chez eux. Les Philistins ont été encore plus enragés voyant qu'Israël revenait à Dieu. Et quand on revient à Dieu, il faut savoir que Satan ne va pas être content. Il va donc utiliser toutes sortes de stratagèmes, de ruses, d'attaques pour nous décourager et nous faire repartir où on était dans le péché. Et là aussi, il faut se préparer, crier à Dieu. Cette expression, ils crièrent l'Éternel et ils disent à Samuel, crie vers Dieu. Ça me fait vraiment penser à ce passage du voyage du pèlerin, cette allégorie de la vie chrétienne par John Bunyan, où le chrétien se trouve un moment attaqué par Apollyon, le Satan lui-même, qui est une sorte d'être tout-puissant, qui le terrasse, et lui, il pense qu'il va arriver parce qu'il est chrétien maintenant, il a le Seigneur. Et il est terrassé et il pense que c'est la fin pour lui. Vraiment, il se dit, ça y est, il va me tuer, me détruire. Et là, il crie, secours, Seigneur. Et immédiatement, il est délivré. Et c'est une leçon de vie chrétienne. C'est que Satan est plus fort que nous. Il est plus fort que nous. Donc, il ne faut pas chercher à le battre avec nos petits poings. On ne va arriver à rien. Par contre, il faut crier au Seigneur. Si on a des attaques à l'intérieur de nos pensées, si on a des attaques dans notre vie quotidienne, dans des obstacles terribles, des choses vraiment où on se sent oppressé par quelque chose d'ennemi, eh bien, il faut aller vers le Seigneur. Ne pas chercher à faire de l'exorcisme ou toutes sortes de choses que Dieu ne veut pas. Il faut aller vers le Seigneur. Christ est au-dessus de toute domination, de toute autorité, ça veut dire de tout démon, de tout être angélique. Christ est au-dessus. Son nom est au-dessus de tout nom. Il a été victorieux de Satan à la croix. Il a livré publiquement en spectacle. Donc, c'est en Christ que nous devons nous confier dans les combats spirituels. Ce qui est touchant, et je termine avec ces leçons spirituelles ici, c'est que voilà à nouveau l'attaque contre Israël. La dernière fois, qu'est-ce qu'ils avaient fait quand ils avaient été attaqués avec Élie et les fils d'Élie pour se défendre ou pour ils avaient pris l'arche de l'alliance Il avait mis devant en disant, là, on va les battre, c'est sûr. Est-ce qu'ils font ça dans ce cas-là? Non, ils vont chercher Samuel. Prie pour nous, intercède pour nous. Ils ont compris apparemment la leçon. Et ils cherchent vraiment à obéir à Dieu. Et Samuel étant celui qui, prophète de l'Éternel, c'est celui qui a la parole de Dieu. Et donc, il se tourne vers lui pour dire, dis-nous, prie pour nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Et nous aussi, on doit suivre cet exemple. On ne joue pas avec Dieu, mais on cherche le Seigneur de tout cœur. On se tourne vers Dieu. C'est tellement important de garder cette relation avec le Seigneur, de ne pas s'éloigner. Dès qu'on s'éloigne, il faut vite revenir à l'Éternel. Parce que nous sommes une brebis égarée, une brebis égarée toute seule, elle ne va pas loin. Elle a besoin. Je pense à ces milliers de chrétiens, je pense qu'il y en a des milliers en France qui ne vont plus dans une église. Alors, il y a des millions qui ont été baptisés certainement, et qui ne vont plus du tout à l'église, et même qui sont devenus athées. Mais je pense aussi dans le milieu protestant évangélique, qui est déjà tout petit, mais tout en étant petit, il y en a encore beaucoup qui ne vont plus, qui ont entendu, qui ont été à l'église enfant, etc., qui ne vont plus. Toutes ces personnes qui sont sans le Seigneur, en fait, je prie et nous devons prier pour elles, pour qu'elles reviennent au Seigneur. On doit être comme Samuel. Seigneur, ramène-les. Ces personnes, certainement, ont des épreuves, des difficultés, comme tout le monde, mais elles doivent les ressentir plus durement parce qu'elles sont seules, sans Dieu, sans Église, sans frères et sœurs pour les aider. Et donc, on doit prier qu'ils reviennent au Seigneur. Tout ce peuple sans espérance et sans Dieu. On doit leur prêcher, leur annoncer la bonne nouvelle que Christ les accueille, les attend, les bras ouverts. Venez à moi, dit le Seigneur, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Il faut suivre les instructions du Seigneur. Ce n'est pas le tout de dire « je reviens ». Il faut revenir à sa parole, revenir à sa volonté. Et c'est ainsi qu'on aura une vie chrétienne victorieuse, bénie et stable et pure. Et c'est ça que Dieu nous demande. On va juste avoir...